Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Italie attend dans la journée le nom du futur chef de gouvernement populiste. Le patron du parti italien d'extrême droite, la Ligue, Matteo Salvini, a jugé hier inacceptables les avertissements du ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, qui se dit inquiet pour la stabilité de la zone euro.
Au Venezuela, le président socialiste Nicolas Maduro a été réélu jusqu'en 2025. Ses opposants rejettent les résultats d'hier.
À la une en France, une trentaine d'écrivains et d'intellectuels lancent un appel à la fraternité. En solidarité aux migrants, ils interpellent la communauté internationale depuis le festival Étonnant Voyageurs qui se tient à Saint-Malo jusqu'à ce soir. Allons-nous vers une baisse des aides sociales ? Bercy planche en tout cas sur la question pour son prochain budget alors que le ministre de l'économie a déclaré hier que le gouvernement envisageait de réduire les aides sociales à l'emploi. C'est le thème du billet économique d'Annabelle Grelier à la fin de ce journal.
Et puis la question du jour, Catherine, dans une quinzaine de minutes, interdiction des insecticides néonicotinoïdes. N'est-il pas trop tard pour sauver les abeilles? On posera la question à un chercheur au CNRS, Gérard Arnold.
Comme un avant-goût des tensions possibles entre le futur gouvernement italien, populiste pour le moins eurosceptique, et ses partenaires européens. Deux mois et demi après les élections en Italie, le mouvement 5 étoiles anti-système et la Ligue, parti d'extrême droite, doivent présenter aujourd'hui au président Sergio Mattarella et à tout le pays leur chef de gouvernement, celui qui aura pour principale tâche de tourner le dos à l'austérité édictée à Bruxelles et d'augmenter les dépenses et de baisser les impôts selon le programme établi par les deux partis, validé par plus de 90% de leurs troupes. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, s'est dit inquiet pour la stabilité de la zone euro et ses propos ont fortement déplu à Matteo Salvini, leader de la Ligue, proche du Front National. Première tension décryptée à Bruxelles par Lex Milota.
Que les Français s'occupent de la France et ne mettent pas leur nez dans les affaires des autres, a déclaré Matteo Salvini, le dirigeant du parti d'extrême droite italien. Un peu plus tôt, le ministre français de l'économie avait fait part de ses inquiétudes et averti son partenaire. Il y a des règles à respecter, les engagements qui ont été pris par l'Italie valent quel que soit le gouvernement. La Ligue et le mouvement 5 étoiles ont dévoilé vendredi dernier un contrat de gouvernement qui, disent-ils, tourne le dos à l'austérité et aux diktats de Bruxelles. Ce programme n'évoque pas de sortie de l'UE ni de l'euro. Nous ne paniquons pas et attendons de voir le gouvernement nommé et son programme, déclarait récemment un porte-parole de la Commission européenne. Signe d'inquiétude, le vice-président de l'exécutif européen a toutefois prévenu il y a quelques jours les règles du pacte de stabilité et de croissance s'appliquent à tous les États membres de l'UE. Pacte budgétaire, désaccord diplomatique sur les sanctions vis-à-vis de la Russie, gestion de la crise migratoire, les sujets de discorde ne manquent pas entre les deux partis italiens et leurs partenaires européens.
Mais qu'importe les mises en garde de Bruxelles, le mouvement 5 étoiles et la Ligue entendent passer par une hausse des financements publics pour relancer la croissance en Italie et faire baisser le chômage, quitte à crever le plafond des 3% de déficit imposé dans la zone euro. Et la Ligue a reçu ce week-end un large soutien de ses militants d'extrême droite, 1 000 000 de bureaux de vote installés dans plusieurs villes italiennes, à Rome notamment. Le reportage d'Olivier Tosseri.
Les militants de la Ligue continuent à discuter après s'être prononcés sur le contrat d'un gouvernement pour le changement. La consultation n'a aucune valeur juridique, mais Matteo Salvini voulait sonder l'humeur des électeurs avant d'entériner une alliance avec Luigi Di Maio et son mouvement 5 étoiles. Une alliance qui paraissait il y a encore quelques semaines contre nature entre le parti qui a triomphé dans le Nord, locomotive économique du pays, et celui qui s'est imposé dans le Sud, frappé par le chômage de masse et le manque d'infrastructures. Un rapprochement qui fait douter Valeria.
Je suis perplexe. J'espère que Salvini ne se brûlera pas. Qu'il ne se brûlera pas en devenant le larbin de Di Maio.
Les deux hommes promettent de faire taire leur rivalité pour changer le pays. Un programme de 30 points alignant leurs promesses électorales. Baisse significative des impôts, lutte plus sévère contre l'immigration, revenus citoyens, souvent incompatibles entre elles. Ces mesures ont des couvertures financières très vagues. Un programme qui inquiète la Commission de Bruxelles et les partenaires européens de l'Italie, mais pas Federica.
Le contrat, je ne l'ai pas lu, car selon moi, tout sera à refaire. Je crois que de toute façon, Mattarella aura la possibilité de l'améliorer, ce contrat.
Sergio Mattarella recevra ce lundi Luigi Di Maio et Matteo Salvini pour prendre connaissance de la version définitive de leur contrat de gouvernement. Il les a déjà prévenus, le président de la République n'est pas un simple notaire qui le ratifiera sans donner son avis.
Olivier Tosseri à Rome pour France Culture. Le président vénézuélien Nicolas Maduro pourra rester au pouvoir jusqu'en 2025. Il a été réélu hier lors d'une présidentielle anticipée, critiquée par la communauté internationale et boycottée par une grande partie de l'opposition vénézuélienne. Nicolas Maduro remporte près de 68% des voix selon des résultats quasi définitifs. Il se réjouit d'un record historique. Son principal adversaire, Henri Falcón, qui a recueilli 21,2% des suffrages, dénonce lui des pressions du pouvoir sur les électeurs et exige un nouveau vote. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n'aura pas lieu. Après des mois de tensions et de négociations, les deux pays sont parvenus à un accord hier pour éviter toute surenchère sur l'augmentation des droits de douane. Une guerre qui aurait pu coûter très cher aux deux plus grandes puissances économiques du monde. La correspondance à Washington de Grégory Phillips.
Oubliez les menaces et les mesures de rétorsion. Le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, confirme que Washington et Pékin ont donc trouvé un accord et que les sanctions adoptées à l'égard de la Chine vont être levées. Depuis fin mars, les exportations chinoises d'aluminium et d'acier à destination des États-Unis étaient taxées respectivement à 10 et 25%. La Chine avait répliqué en taxant les importations de soja américain. Après plusieurs jours de négociations, d'abord à Pékin, puis à Washington, la guerre commerciale est donc pour l'instant mise entre parenthèses et plus surprenant encore, les deux pays s'engage aussi à travailler ensemble pour réduire le déficit commercial américain avec la Chine. L'an passé, il s'élevait à 375 milliards de dollars. Trump souhaitait le diminuer de 200 milliards. Il n'y a pour l'instant pas d'objectif chiffré, mais le Trésor précise que Pékin s'est engagé à augmenter considérablement ses achats de marchandises américaines. Le secteur agricole pourrait être concerné. Washington estime aussi que dans le secteur de l'énergie, les achats réalisés par les Chinois pourraient être doublés. D'ailleurs, le secrétaire au commerce, Wilbur Ross, a prévu de se rendre à Pékin prochainement pour vérifier que ses promesses se concrétisent. Cette réconciliation entre les deux géants est en tout cas une bonne nouvelle pour l'administration Trump. Les élections de mi-mandat sont dans moins de 6 mois et une guerre économique avec la Chine aurait sans doute eu des conséquences négatives pour les entreprises américaines et peut-être influencé le vote des électeurs.
Vous écoutez les matins de France Culture, il est 7h07 et c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Pas question de remettre en cause le statut des fonctionnaires. C'est ce qu'assure ce matin dans les pages de Libération le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt.
Il y aura des ajustements, une modernisation, mais pas de remise en cause, explique Olivier Dussopt à la veille de la troisième journée de grève des syndicats de la fonction publique depuis le début du quinquennat. Les organisations syndicales dénoncent les orientations du gouvernement qui constituent, selon elles, une attaque justement du statut de fonctionnaire. Simplification du dialogue social, extension du recours aux contractuels, part accrue de rémunération au mérite et accompagnement des mobilités de carrière, y compris vers le secteur privé. Nous ne remettrons pas en cause le statut des fonctionnaires, insiste ce matin donc le secrétaire d'État à la fonction publique. Et en France, y aura-t-il une seconde journée de solidarité pour financer la prise en charge des personnes dépendantes? Question qui revient en ce lundi de Pentecôte, jour initialement choisi par Jean-Pierre Raffarin en 2004, puis laissé à l'appréciation des employeurs pour financer la prise en charge des personnes âgées et handicapées. Le dispositif a permis de récolter près de 30 milliards d'euros depuis 2004. Une deuxième journée est-elle pertinente? Réponse à suivre dans le journal de 7h30. Il se place aux côtés des migrants à travers des récits ou des témoignages, des faits historiques ou des dessins. 30 écrivains et intellectuels lancent un appel à la fraternité dans un livre « Osons la fraternité » publié chez Philippe Ré avec le festival Étonnant Voyageurs qui se tient à Saint-Malo jusqu'à ce soir. Ilana Mor-Youssef est sur place pour France Culture.
Les écrivains, artistes et réalisateurs réunis à Saint-Malo.
Sur la scène de l'auditorium au Palais du Grand Large, l'écrivain Patrick Chamoiseau lit l'appel dit de Saint-Malo. À ses côtés, Cédric Héroux, le jeune agriculteur condamné pour délit de solidarité avec les migrants, a été la vedette de l'après-midi. Il était déjà à Cannes la semaine dernière.
On a reproché au festival de Cannes de m'avoir invité, on a reproché à ce festival-là d'un voyageur de m'avoir invité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'implication politique de cinéastes, d'écrivains, c'est qu'il y a une réalité politique.
Les migrations existent, ni les murs ni les frontières ne les arrêteront. Les auteurs de l'appel plaident donc pour la création d'un principe d'hospitalité universel.
L'urgence est à la construction d'un principe d'hospitalité qui deviendrait opposable aux États.
Faut-il y voir une utopie irréalisable? Pas du tout, assure la juriste Mireille Delmas-Marty, co-auteur de l'appel.
Il ne faut pas attendre que les États montrent la voie. Je pense que les États, c'est un peu ce qui s'est passé pour les changements climatiques. les États ont suivi.
Les frontières, dit Patrick Chamoiseau, doivent cesser d'être des guillotines.
Ilana Mor-Youssef à Saint-Malo pour France Culture. Une délégation d'une dizaine de militants environnementaux membres de l'Alliance des gardiens de Mère Nature, alliance fondée en 2015 lors de la COP 21, était présent à Paris cette fin de semaine. Sept militants du monde entier qui ont renouvelé hier leur appel pour la protection de la nature. Sarah Maquet.
Ils portent fièrement tatouages et costumes traditionnels, expliquent leur signification. Ils sont Maasai, Maori, Tolénou du Bénin, Brésilien Unikui, Papora de Taïwan ou Ashaninka du Pérou. Là, pour rappeler que la nature, eux, la connaissent et savent la protéger depuis longtemps. Edouard Itowaina, Kanak de Nouvelle-Calédonie.
Aujourd'hui, l'homme a créé son environnement où il se trouve piégé. Alors, on est venu justement pour raviver cette flamme qui sommeille en chaque être humain, de l'amour avec l'espace environnemental. Nous, peuple autochtone, on vient réveiller cette conscience que vous avez oubliée.
Voilà, je vous propose donc de vous lire le début de cette déclaration de l'Alliance des gardiens et enfants de la Terre-Mère. Ça va vous mettre tout de suite dans l'ambiance. L'Alliance a émis 17 propositions.
Parmi les propositions, la demande de réguler la construction de grands barrages hydroélectriques ou encore demander aux États la ratification de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux, une convention non ratifiée par la France. Mathieu Bonnet, vice-président de Planète Amazon.
On a un débat à avoir dans notre société sur tout ce qui est le projet de compensation carbone. Les États se sont engouffrés dans ces solutions de marchandisation de la nature sans que la population ait accès à un véritable débat sur est-ce que c'est la bonne solution ou non.
Et prochain rendez-vous pour porter la parole des gardiens de Mère Nature, la conférence annuelle de l'ONU sur les changements climatiques, la COP 24, qui se tiendra cette année au mois de décembre en Pologne.